La coiffeuse aux accents. La coiffeuse aux accents de nos sens, de l'innocence. Toujours ce petit jeu de mots qui démarre cette émission étrange, née suite à l'initiative de Milana Volochenko, la cofondatrice du festival Blues en Aveyron et la créatrice du parfum Gentiane Caviar de Braque. Posez vos affaires, détendez-vous et mettez-vous à l'aise devant la coiffeuse aux accents de nos sens, redoutablement installée au milieu de notre studio d'enregistrement. Elle est là pour vous guider dans votre vie. Son nom de l'émission, ambigu et étrange, a pour but réveiller vos esprits et vous amener vers d'autres plateaux de votre conscience. Cachez vos peignes, nous ne sommes pas là pour être beaux, nous sommes ici pour être vrais. Je vous invite donc à vous décoiffer soigneusement et aller à l'essentiel, vers la magie de nos sens, olfactifs, auditifs, gustatifs, visuels, tactiles et pourquoi pas celui sixième, si recherché et espéré. La magie de chaque accent de ce meuble démarre par le bout du nez. À chacun ses secrets, ses émotions et ses souvenirs que l'on respire, qu'on retient et qu'on place dans les tiroirs de notre âme. Le nez, c'est notre premier cerveau. Ouvrir le nez, c'est donner l'accès à tous nos sens, y compris le sixième. Le fameux chemin vers la volupté intérieure inavouée. Cela arrive le plus souvent quand on ne s'y attend pas. On croise la d'aventure d'un fleuriste au printemps et soudain une bouffée de jonquilles nous ramène à notre enfance en sortant jour de Pâques ou de Noël. Si le fleuriste a astucieusement su intégrer quelques brandes de sapin dans les jonquilles. Enfin, une gousse de vanille, on se souvient du baiser maternel, tout embaumé de ces fragrances inoubliables qui vont nous poursuivre ensuite toute notre vie. Seuls les miroirs de notre enfance, les armoires de nos grandes-mères, les porte-manteaux de nos grands-parents s'en souviennent. Notre invité du jour s'appelle Bernard Merle. Il vient de la Drôme et en avril dernier, il a eu l'occasion d'exposer ses magnifiques toiles fortement inspirées de l'impressionnisme à la galerie de Saint-Geniès d'Olt et de Vrac. Une exposition magnifique qui a marqué les esprits. Il nous permettra donc d'ouvrir le tiroir où se cachent les pinceaux, les toiles roulées et surtout la recette. Le comment le fils des agriculteurs devient l'artiste. Bernard, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Dites-nous, quel est votre parcours ?
Mon parcours est un peu sinueux, à vrai dire. Je n'ai pas suivi la voie officielle des beaux-arts pour être peintre. J'ai d'abord fait des études de sciences, puis j'ai été accordeur et réparateur de piano. Puis j'ai travaillé dans le décor de théâtre, ça se rapproche un peu. Et enfin, j'ai laissé de côté toutes ces activités pour me consacrer uniquement à la peinture que je faisais, mais parallèlement à mes activités diverses.
Rien à voir avec l'agriculture. Et comment vous en êtes arrivé là, du coup ?
La peinture, j'ai toujours aimé dessiner, évidemment, enfant aussi, et puis c'était un moyen d'expression, j'étais à l'époque très timide, le dessin était le moyen de dire ce que je voulais, qui était compris ou pas compris d'ailleurs par les autres, mais enfin, moi je me libérais en tout cas de ce côté-là. Et puis, mes parents étaient agriculteurs, mais enfin ma mère jouait du piano, mon père a toujours aimé écrire des chansons, voilà, ils aimaient ce monde... artistique, ils étaient un petit peu agriculteurs, presque contre leur volonté, je dirais, parce qu'ils avaient hérité de la ferme parentale, etc. Donc, ils m'ont plus ou moins conduit à
moi-même. Leur propre rêve, peut-être.
Peut-être. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même dans ma jeunesse, pour moi, c'était impossible de penser que je serais peintre un jour. Ça se fait un peu en pente douce, on va dire.
Et est-ce que vous êtes de la Drôme ? Est-ce que c'est votre lieu de naissance ?
Non, mon lieu de naissance, c'est Lyon. J'ai vécu dans les Monts du Lyonnais.
D'accord.
Et je suis allé dans la Drôme quand j'ai rencontré mon épouse qui était dans ce département.
Et il me semble qu'elle est aussi une artiste.
Oui, oui, elle est aussi une peintre. Ce qui est qui a des avantages parce qu'on peut parler vraiment profondément de notre activité et puis quelques inconvénients, évidemment.
Et oui, c'est pas toujours évident de faire le même métier. Tout à fait, tout à fait. Alors, et Saint-Geniès ?
Et sa jeunesse...
Je précise quand même que c'était en avril dernier. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Saint-Geniès-d'Olt, étant de la Drôme?
Je suis venu à Saint-Geniès-d'Olt parce que c'était ma route pour aller présenter une exposition plus loin, du côté de Figeac. Et je me suis arrêté dans ce village. J'ai beaucoup aimé ce village, son architecture, et puis l'ambiance et l'accueil qui m'a été fait. Et donc j'ai demandé à tout hasard s'il y avait une salle d'exposition. Je l'ai trouvée fabuleuse, cette salle. Les démarches pour accéder à cette salle d'exposition étaient d'une simplicité inouïe, c'est très rare. Tout s'est fait assez simplement.
Ce qui démontre la magie de l'aviron. L'aviron propose des fois à faire les choses qui sont pas concevables ailleurs. Et je le confirme moi aussi. Et par rapport à cette exposition, donc, elle a eu lieu en avril dernier. Ça vous a énormément motivé de refaire l'expérience l'année prochaine. Mais d'un coup, vous avez même pensé aux événements dramatiques qui ont eu lieu en Ukraine, et une partie, une certaine pourcentage des ventes, vous avez versé à la cause ukrainienne, ce qui est tout à fait remarquable. Et merci pour eux. Est-ce qu'il y avait des raisons qui vous ont poussé à le faire?
Bon, il y avait une raison émotionnelle, comme elle a eu lieu, je pense, chez beaucoup de monde au départ. Évidemment, je n'ai pas de raison précise de géographique,
de
d'attache géographique dans ce pays, mais voilà, c'est.
C'était une impulsion naturelle, oui. En sachant que l'exposition n'avait rien à voir avec cette thématique. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous parliez de vos techniques et de votre univers pictural, si vous voulez bien.
Alors ma technique, bon, je ne vais pas être rébarbatif, c'est une peinture la majeure partie du temps à l'huile. Je peux employer d'autres techniques, mais enfin, c'est assez rare. J'aime bien ce médium parce que j'aime l'onctuosité de la pâte, j'aime la matière qu'elle procure, la liberté aussi qu'elle procure dans l'exécution des œuvres. Et quant aux thèmes abordés, ils sont assez multiples, à vrai dire. J'ai du mal à rentrer dans une thématique particulière. Par exemple, si on me disait, je prends l'exemple, faites un travail sur Rodez, je serais tout à fait ravi au départ parce que j'aurais des idées. Mais au bout de trois ou quatre œuvres, l'inspiration peut se tarir, ou du moins l'énergie créatrice qui a inspiré la démarche première. Et donc, la quatre ou cinquième toile sur Rodez peut devenir, comment dire, laborieuse, ou être uniquement cérébrale. Elle peut être du « il faut que je travaille sur Rodez ». Voilà. Et du coup, souvent, ces toiles successives, elles finissent par se transformer, parce que, ne me plaisant pas, elles se métamorphosent. La cathédrale de Rodez devient finalement un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre prend des fleurs, ça devient un bouquet de fleurs, etc. Et du coup, mes toiles régulièrement se métamorphosent de cette façon.
Il pourra aussi très bien devenir l'usine d'Anières, ce qu'on trouvait dans certaines toiles de Van Gogh, parce que je précise que j'ai vu votre exposition et c'est une perception personnelle. J'en ai déduit qu'il y a une forte influence impressionniste, parce que dans des certaines toiles, on trouvait Van Gogh, dans d'autres, Degas, parce que vous avez une certaine thématique sur les ballerines, caché dans un petit alcôve de la salle d'exposition. Je l'ai bien repéré. Et puis, d'un coup, il y avait quelques rappels de Picasso par rapport à Arlequin. Donc, voilà, tout ça, ça m'a énormément interpellée. C'est ce qui a fait que Nadia a logué. Et puis, voilà, une belle découverte. Et vous êtes là aujourd'hui. Voilà, je m'étale plus. Sur le sujet, et j'aimerais juste vous poser une question toute simple. Quelles sont vos inspirations? Vous avez déjà parlé, est-ce que Rodez pourrait potentiellement, le milieu urbain, vous inspirer, ou vous avez d'autres univers d'inspiration?
Disons que les univers d'inspiration, c'est finalement de plus en plus l'univers qui m'entoure. C'est-à-dire, c'est les natures mortes qui sont autour de moi, c'est-à-dire dans la cuisine, n'allons pas chercher plus loin, la nature qui m'entoure, voilà de plus en plus qui devient mes sources d'inspiration. Alors qu'auparavant, j'allais les chercher un peu plus loin. Et puis, c'est pas que mon univers se rétrécit, mais j'y trouve plus de profondeur et de...
proximité.
Voilà. Et puis, d'authenticité, je ne sais pas comment dire. Moi, je vis vraiment ce que je...
Mais quand vous dites vous êtes allé les chercher loin, cette quête, elle consistait en quoi exactement?
Mais parfois, ça a pu être une quête presque philosophique, des choses comme ça. J'ai voulu travailler sur la lumière et puis tout ce qu'elle inspirait de manière
plus
profonde.
Donc, vous vous déplaciez dans les lieux où vous trouverez alors, potentiellement la lumière en question ou bien... En fait,
quand je dis que l'univers qui m'entoure m'inspire, il m'inspire, mais inconsciemment. Je travaille rarement sur le motif. Et c'est plutôt par de mémoire et mes peintures, en tout cas leur composition, relève de l'imaginaire. Mais j'y intègre effectivement les choses qui sont autour de moi. Et quand auparavant j'allais chercher mes sources un peu plus loin, cette lumière, je la trouvais entre autres bien dans d'autres peintures, des peintures de peintres. Voilà, parce qu'il faut toujours s'alimenter par des exemples.
Vous pouvez citer les peintres qui ont eu l'influence sur ce que vous faites.
Et il y en a énormément, à vrai dire. Il y a des peintres.
C'était dans quelques-uns.
Il y a eu Zurbaran, il y a eu Goya, il y a eu les peintres espagnols, beaucoup de peintres italiens, que ce soit le Tintoret, que ce soit Caravage. Et puis plus près de nous, il y a eu effectivement les impressionnistes, il y a eu Picasso. Aujourd'hui, il y a des peintres que j'aime beaucoup, Renan Barrault, des gens comme ça. J'ai encore vu une exposition dernièrement à la Halle Saint-Pierre où j'ai vu un dessinateur, en fait, qui s'appelle Victor Sorel.
Halle Saint-Pierre,
à Paris,
on sait pas où
pardon, d'accord. À Paris. Et qui m'a... Vraiment, j'ai eu de l'émotion devant ses dessins. Voilà, mes sources d'inspiration, voilà, elles sont multiples. Elles ne se cantonnent pas à une technique particulière.
Et quand un peintre soit en émotion, est-ce qu'à votre avis, cette émotion, elle est différente de l'émotion d'un être qui n'est pas forcément artiste?
Non, je pense que l'émotion peut être la même. Je pense que d'ailleurs, si j'avais pas la peinture comme médium, admettons que je perde une main, je ne sais pas moi, enfin j'espère pas, je touche du bois quand même, mais j'essaierais de trouver d'une autre manière une façon de m'exprimer.
Parce que l'inspiration, c'est quand même de rentrer dans le registre de l'émotionnel. Et en fait, ce qui m'amène à vous poser cette fameuse question qui nous interpelle depuis quelques jours, depuis qu'on prépare cette émission. En fait, laisse-t-on suffisamment s'exprimer les émotions de notre corps? Et aussi, vous dites que n'est-on pas, surtout en France, trop cérébraux quand il s'agit de voir une peinture ou une œuvre? Expliquez-nous un peu ce que vous voulez dire par là.
On recherche parfois le sens de l'œuvre avant de l'avoir goûtée émotionnellement. Il me semble. Je suis encore allé dernièrement dans une exposition où on m'a obligé quasiment à lire le texte d'introduction de cette exposition avant de la voir. Personnellement, ça me gêne parce que ça m'oriente le regard dès le départ. Je préfère
d'avoir une perception personnelle.
Avoir une perception au départ et ensuite, effectivement, c'est toujours bien de se nourrir de la conception de l'artiste et de ce qui a fait qu'il ait créé cette œuvre.
Donc l'art reste subjectif.
Oui, il y a au départ une subjectivité, à mon avis, automatique. Et s'il n'y a pas l'appel de l'émotion au départ, on aura beau multiplier les explications, ça n'ira jamais très loin, à mon avis.
Et si on parlait un peu de la musique, hein, parce que la musique, c'est aussi le volet phare de notre émission, elle a une place très importante. Non seulement dans le cadre de l'émission, mais ça nourrit l'imaginaire énormément. Et à mon sens, la musique est indissociable de la production artistique. Est-ce que pour vous, ça a une place importante dans ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des œuvres musicales qui vous inspirent également?
Oui, il y a des œuvres musicales. J'écoute de la musique pendant que je peins, mais pas tout le temps.
Est-ce que c'est un style de musique particulier?
J'ai différents styles de musique. J'aime, en général, j'aime bien la musique classique, de Bach à Vivaldi, à voilà des gens plus proches de nous, Ravel, etc. Et même un peu de la musique contemporaine, ça m'arrive. Et aussi la chanson. J'aime beaucoup les musiques du monde. J'ai encore écouté il y a pas longtemps. On m'a fait connaître une chanteuse espagnole qui s'appelle Silvia Pérez Cruz, que j'ai beaucoup aimée quand elle chante une chanson qui s'appelle Mañana de au départ sur des paroles de Leonard Cohen.
Seriez-vous d'accord qu'on le fasse découvrir à nos auditeurs ?
Et bien sûr.
On va écouter un extrait de Mañana.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana?
¿Y avez-vous d'autres suggestions?
Il y a Lassa, que j'aime beaucoup aussi, qui est de la même façon une chanteuse qui s'exprime en espagnol, en anglais, en français, indépendamment, qui a une sincérité dans son approche de la chanson incroyable. On sent vraiment que ça vient des tripes et les mots qu'elle emploie sont très simples et en même temps très profonds.
Et ben je vous propose aussi d'écouter ce morceau.
Pero qué enredo te has puesto, muchachita. Que amarlos son los hechos que adivinas. Que oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós.
Parlant du regard, en fait ça c'est aussi un sujet qui est très vaste, c'est d'ailleurs notre discussion du hier. Regarder la peinture ou des personnes droit dans les yeux, c'est les grands clichés de communication sociale. À votre avis, est-ce que c'est véritablement la révélation de respect, ou corrigez-moi si je m'exprime mal, on dit normalement que regarder droit dans les yeux, c'est d'avoir un jeu franc en quelque sorte. C'est ce qu'on dit, non ?
Oui, on dit ça. Bon, personnellement, j'ai fait l'expérience de gens qui m'ont regardé dans les yeux en me faisant une gigantesque entourloupe derrière. Donc, on peut mettre des bémols à tout ça. Par contre, ce regard, il crée une proximité, je trouve, parce qu'il y a un échange direct, indépendamment des mots. Voilà, moi, ce que je dirais pour un regard qui n'est, mais la franchise là-dedans, difficile de l'évaluer.
Nous sommes d'accord parce qu'il y a certaines cultures où regarder dans les yeux, c'est équivalent de l'intrusion à l'intérieur de l'être, c'est limite l'insolence, mais c'est aussi un acte de priver l'autre de sa zone de liberté aussi. C'est souvent dans la culture asiatique, par exemple, c'est limite insolent de regarder droit dans les yeux, d'où il y a cette tendance de baisser les yeux ou d'avoir le regard beaucoup plus lointain. C'est regarder vers le ciel ou regarder à côté, ce n'est pas grave du tout. Mais quand on regarde la peinture, est-ce qu'il y a le regard particulier qu'il faut se projeter ? Est-ce qu'il y a des angles parlant de Mona Lisa notamment, parce que c'est le fameux regard qui nous poursuit, peu importe l'angle de notre disposition face à la peinture. Est-ce qu'il s'agit de la technique picturale particulière, ou bien c'est la manière de regarder la toile qui fait que on a toujours cette sensation d'être persécuté, ou bien de voir ce qui se cache derrière le message qu'on trouve sur la toile.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu ce mythe au sujet de Mona Lisa, mais n'importe quel portrait, on a cette impression d'un regard qui nous suit. Il y a sûrement un phénomène optique là-dedans. Il y a aussi le fait que le portrait en peinture est un regard fixe, complètement fixe, et on a l'impression d'être mis à nu, parce que ce regard, on s'en dégage pas, il n'y a pas un clignement d'yeux, rien qui fasse qu'à un moment donné, on sorte de ce regard qui nous regarde, justement, parce que la peinture, on a l'impression qu'elle nous regarde aussi, qu'elle nous met à nu.
Tout à fait.
Et c'est peut-être...
Et c'est ce qui est troublant.
Oui, c'est peut-être ça qui peut être troublant, mais dans beaucoup de portraits, c'est le cas.
Est-ce que vous êtes un peu portraitiste ou pas du tout ?
Ça m'est arrivé. Récemment, j'ai fait un peu plus de portraits, oui. De personnes d'ailleurs que je ne connaissais pas forcément. Et effectivement, il y a une approche du portrait qui est particulière à cause de ce regard, à cause de cet échange de regards qu'en même temps, je crée, mais je ne le crée pas complètement parce qu'il est déjà existant quelque part. Et c'est assez... Oui, ça peut être perturbant.
Si on vous proposait choisir de faire une nature morte ou un portrait, est-ce que vous aurez une préférence face à ce choix ?
Oula, c'est pas la même approche.
Du tout.
Non. En même temps, il m'est arrivé de faire apparaître dans une nature morte un portrait, alors qu'il n'était pas décidé au départ. Inversement, un portrait a pu
c'était
donner...
C'était quoi, la pomme avec des yeux
C'était un morceau de la toile où je trouvais qu'il y avait besoin d'une présence et du coup, je faisais par exemple un miroir dans lequel se reflétait une personne. Ou alors un tableau dans le tableau. Voilà, donc ça peut arriver de même que l'inverse. Il m'est arrivé de faire un portrait, alors un portrait c'est beaucoup dire, mais un personnage en tout cas, et que ce personnage qui par exemple nous regarde se transforme petit à petit parce que je trouve que son attitude ne convient pas, petit à petit il va se transformer en un pot de fleurs. Voilà, c'est un peu la magie de la peinture qui fait que tout peut arriver.
Bon, bah c'est vrai, c'est très très bien dit, et tout peut arriver, comme la prochaine exposition, espérons-le, l'année prochaine à Saint-Géniès, dans le même endroit. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où est-ce que l'exposition potentiellement aura lieu ?
Oui, c'est dans la galerie municipale du cloître de Saint-Geniès.
Juste avant l'office de tourisme et l'entrée latérale de la mairie, il me semble bien.
Oui, voilà, c'est en plein centre du village, donc très facile à trouver.
Et d'ailleurs, ce lieu est très dynamique parce que pendant l'été, il y a pas mal d'expos et je suggère vivement découvrir cet endroit, comme d'ailleurs le cloître qui est absolument sublime. Et par cette même occasion, je vous annonce que dans ce même cloître, le 18 août, il y aura un concert de Fabrice Ullery qui va illustrer le bicentenaire de Marie Talabot, personnage emblématique du village. Et on va donc terminer aussi avec sa touche musicale. C'est la tradition de notre émission. Et à mon sens, c'est son œuvre personnelle qui illustre très très bien ce qu'on vient de dire. Et notamment les tendances impressionnistes qu'il a intégrées dans le troisième concerto qu'il a intitulé Supersonique, composé de trois mouvements. Et c'est le premier mouvement qui a ces tendances si grandement utilisées dans l'univers de l'art. Parce que l'impressionnisme, de toute manière, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup d'influences quand même picturales. Bernard, on souhaite savoir si vous avez un site internet, où est-ce qu'on peut trouver vos toiles au-delà de la galerie Saint-Géniès d'Olt d'une manière occasionnelle.
Oui, alors j'ai un site internet qui s'appelle bernardmerle26.wixsite.com, ce qui est très compliqué et impossible à retenir. Enfin, on ne sait pas.
J'allais dire très facile à retenir.
La communication n'est pas mon fort, mais bon.
Et puis en conclusion, apparemment, il y a des métamorphoses qui se cachent dans vos techniques picturales? Quelques mots.
Oui, c'est-à-dire que mes toiles, elles se métamorphosent en cours de route. Je les reprends très souvent. Ma technique me le permet parce que je travaille d'une façon assez fluide et donc je peux reprendre mes toiles sans qu'il y ait de problème. Et donc, les sujets varient, mais tout ça n'est pas visible dans l'aspect final. Par contre, ça se cache dans la trame de la toile. Okay. Je pense que ça influe quand même.
Il faut décaper des couches pour découvrir ce qu'il y a derrière, du coup.
Oui, voilà.
Alors, en quelque sorte.
En quelque sorte, c'est ça. Et il y a toujours des petites traces du sujet abordé dans la couche précédente qui reparaissent. Voilà, il peut y avoir un œil de cheval au milieu d'un bouquet de fleurs. Voilà, mais si ça ne gêne pas et si ça perturbe pas le regard et si ça ne conditionne pas aussi la pensée, je le laisse. Après tout, voilà.
Grosso modo, pour regarder la peinture de Bernard Merle, il faut venir avec un appareil de la diagnostic radiologique. Et on verra tout. Voilà, merci.
Merci de m'avoir invité et à bientôt.